Bonjour à tous. Voilà, maintenant ils peuvent me voir. Tu fais bien, Billy, parce qu'ils ne me voyaient plus. Ça, c'est le mystère, hein? J'espère que nous allons tous bien ce matin. Par la grâce de Dieu, c'est la place de savoir si on va bien, si on ne va pas bien. Et si on ne va pas bien, c'est à la bonne place parce que Jésus peut faire tout pour que ça aille bien. C'est la place pour prier, c'est la place pour pleurer, c'est la place pour se lamenter, mais c'est aussi la place pour se réjouir dans la présence de Dieu. Si on ne fait pas dans la maison de Dieu, où est-ce qu'on a d'autres places pour faire cela? C'est pourquoi chaque fois quand j'apporte la parole de Dieu, je demande est-ce que ça va? Je veux me rassurer que le peuple de Dieu, dont nous sommes les bergers, que nous voulons savoir comment vous allez. Cela ne nous exempte pas d'aller vous visiter chez vous. On le fait aussi de temps en temps. Amen. Alors ce matin, il m'a été demandé à la veille, à l'approche de Pâques, de pouvoir apporter un enseignement sur la passion de Christ. La passion de Christ, comme je l'ai intitulé, passion de Christ, le prix de notre salut. On pourrait dire la passion de Christ, le prix de notre liberté. Et c'est ce dont je veux parler. Mais si je vous demandais ce matin, quand on parle de la passion, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? C'est quoi qui vous vient dans la pensée quand vous entendez parler de la passion, quand on parle passion? Souffrance de Christ. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent nous venir à l'esprit aussi? Je vous écoute, c'est l'interaction, hein? Le don de soi. Le don de soi. OK. Effectivement, tout cela peut être des réponses. Quand on parle de passion, on pense à la souffrance de Christ. Je me suis amusé à aller voir sur l'Internet et puis je suis allé regarder aussi le dictionnaire, un dictionnaire que mon frère Jules Poulin m'avait conseillé, puis j'ai acheté ça, c'est bon. L'antidote. Vous connaissez, beaucoup de gens connaissent l'antidote. Bon, je ne l'exploite pas autant que lui parce que lui, c'est son travail et il manipule le français comme il faut, mais je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas bon dedans. Mais je me débrouille, ça m'aide. Alors, quand on regarde dans ces affaires, il y a beaucoup d'explications, on aura le temps de voir ça tout à l'heure. Je me suis dit, mais ça n'avance pas, c'est moi qui ai l'affaire en main ici. Excusez. Mais avant qu'on parte là, on va regarder d'autres choses. Hop là, je suis parti trop vite. Alors, ça c'est mon plan qu'on va voir ce matin, rapidement. Introduction, définition de la passion. Et l'annonce des souffrances du Christ, les causes ou les raisons fondamentales de la souffrance du Christ, des souffrances du Christ, et l'application et conclusion. Ça va? Bien. Alors, allez, voyons. Bien. Comme je le disais tantôt, quand on regarde la définition, j'ai vu dans le dictionnaire Antidote qui nous donne plusieurs définitions de la passion. Quand on regarde le mot passion. Ça dit beaucoup. Passion, état affectif et intellectuel, violent, puissant, qui domine la raison. Donc, quand je suis passionné, peut-être quelque chose qui va dominer tout mon être. La raison, ma façon de décider ou de penser les choses vont venir de là. D'obéir, résister à ses passions. Donc, on peut demander à des gens de résister à leur passion. À sa passion, maîtriser sa passion. Dompter, vaincre ses passions. Parler avec passion, peut-être c'est ce que je devrais faire ce matin. Alors, affection, deuxième point, on dit affection intense pour une personne. Alors, j'aime ma femme avec passion. Anne Latour, tu sais, si tu n'es pas là, mais je te le dis que je t'aime avec passion. Et j'aime le peuple de Dieu aussi avec passion. Amen. Et c'est ce que Dieu nous demande de faire. Et quand nous regardons cela, toutes ces définitions-là nous amènent à comprendre la passion, selon nous, au niveau amour, au niveau affectif plutôt. Et j'ai continué à regarder. J'ai trouvé ça. Opinion irraisonnée. Donc, la passion peut être, ça peut avoir la face négative. N'est-ce pas? Et on peut être passionné aussi de la politique, passionné d'une religion. Et passionné du référendum. Il y a des gens qui sont des, comment on appelle ça, le Parti québécois. On est passionné du référendum quand on veut avoir notre indépendance. Et il y en a des gens qui sont comme ça. Et c'est bien pour eux. Alors, ce que j'ai trouvé dedans qui était très bien, la passion des souffrances, le supplice de Christ, de son arrestation jusqu'à sa mort sur la croix. Ça, j'ai aimé ça. Parce que c'est de ça que moi je vais vous parler ce matin. Et quand nous parlons de passion, nous parlons des souffrances, des supplices qui ont été. C'est de ça qu'on veut parler. Des souffrances, des supplices qui ont précédé et accompagné la mort de Jésus de Nazareth. Ce matin, c'est de ça que je vais vous parler. Alors, quelqu'un a dit, j'ai lu ça dans, c'est tiré du, ce que je vais vous lire là, c'est tiré réellement de Pain quotidien, 1er avril 2015. Je suis en avance là. C'est une citation qui dit ceci. J'ai demandé à plusieurs de mes amis quelle était l'expérience ou quelle a été l'expérience à laquelle la plus pénible de leur vie. Ils m'ont répondu la guerre, l'opération, la perte d'une personne chère. Mais voici, quand j'ai demandé à ma femme, elle m'a répondu la naissance de notre premier enfant. Car son accouchement dans un hôpital militaire isolé s'est avéré long et difficile. Et en y pensant, toutefois, je considère que cet événement joyeux, que c'était un événement joyeux, car ses douleurs avaient un sens. Les douleurs de l'enfantement avaient un sens. C'est ce que cette dame a dit. Alors je vais parler de douleurs, des douleurs et des souffrances du Seigneur qui avaient un sens et qui continuent d'avoir un sens. Quand une femme accouche, c'est douloureux. Elle est entre la vie et la mort. Son mari est inquiet. On ne sait pas si elle va s'en sortir ou si elle ne s'en sortira pas. On ne sait pas si on va rentrer à la maison avec toutes les deux personnes ou on va rentrer avec une personne. Ou on va perdre même tous les deux à l'accouchement. Mais cependant, quand l'accouchement est bien fait, les deux sont contents. Malgré que ça a été douloureux, madame, monsieur, leur entourage est content. Et c'est à ça que Jésus fait référence dans les Écritures quand il parle à ses disciples. Quelques heures avant de mourir, ou quelques jours avant de mourir, il dit à ses disciples que je m'en vais vers Jérusalem. Il faut qu'il en soit ainsi. Comme une femme éprouve de la joie après avoir enfanté, ainsi il faut que le Fils de l'homme s'en aille. Il va trouver de la joie. Il y a des douleurs pendant la persécution, pendant d'autres choses, mais il va trouver de la joie après. Alors, cette souffrance de Christ a été annoncée avant. Annoncée par qui? On peut dire comme ça. On va regarder. Annoncée premièrement par les prophètes. Les prophètes de l'Ancien Testament ont fait de la venue de Jésus-Christ leur objectif. La venue de Jésus-Christ était dans la tête de tous les prophètes de l'Ancien Testament. C'était leur passion. Beaucoup désiraient voir le Messie venir à leur temps. Mais ils ne l'ont pas vu. Mais quand même, ils l'ont proclamé. Ils ont parlé de lui avec joie, mais aussi avec passion. Ils ont dit ce qu'il allait faire et ce qu'il va souffrir. Dans le psaume, 1000 ans avant la venue de Jésus-Christ, le psaume 22, écrit par David, sous l'inspiration du Saint-Esprit, va parler réellement des souffrances du Messie. Et j'aimerais qu'on regarde dans nos Bibles qu'est-ce qu'il dit. Dans le psaume 22, qu'est-ce que David dit? À partir du verset 1, il dit au chef des chantres de David, au chef des chantres sur Bish de l'aurore, psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint d'Israël, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Toi, en toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis comme un ver. Je suis un ver plutôt et non un homme. L'opprobre des hommes est le mépris du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche et secouent la tête. Verset 8, il nous dit, recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel te sauvera. Il te délivrera puisqu'il t'aime. Et quand nous venons au verset 14, il nous dit, je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue est attachée à mon palais. Et tu me réduis à la poussière de la mort. C'est David, sous l'inspiration du Saint-Esprit, qui a écrit ces souffrances du Seigneur 1000 ans avant que cela ne se réalise. Il parlait réellement du Messie. Et nous avons entendu réellement, si nous lisons notre Bible, nous allons voir que dans d'autres passages, dans Matthieu 26, dans Matthieu 27, on peut voir les souffrances de Christ qui sont annoncées dedans. Et puis on peut voir que Christ a dit toutes ces paroles sur la croix en disant, parmi les 7 mots, les 7 phrases qu'il a dit, « Seigneur, et pourquoi m'abandonnes-tu ?» Et après, David, c'est qui écrit ? C'est Ésaïe qui nous appelle. 300 ans plus tard, Ésaïe, le fils d'Amos, va parler sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Il va parler de la mort de Jésus et de ses souffrances. Un théologien a dit que Ésaïe 53 est le summum de toutes les prophéties bibliques. L'autre a dit, qui s'appelle Dr. Cale, il a dit, Ésaïe 53 est l'Everest de toutes les prophéties bibliques. Il dit l'Everest pourquoi ? Pour sa beauté, mais aussi pour sa grandeur. De tout ce que cela nous dit. Ésaïe 53, il nous dit ceci quand nous regardons. Je vais trouver ma page à moi pour le lire. On peut regarder dedans pour ceux qui ont leur Bible avec eux. Il nous dit, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est ce que Ésaïe dit. Ésaïe annonce que ce Messie va venir, il va mourir à la croix, il va souffrir, il va porter le péché de l'humanité, il va connaître toutes les formes de douleur. Il ne manque pas de le dire, il le mentionne. Quand on lit Ésaïe, on a l'impression que Ésaïe était assis au pied de la croix pendant la crucifixion et qu'il a rédigé son texte. Cependant, il n'était pas là. Il y a 700 ans qui séparent cette prophétie et sa réalisation à la croix. Donc les prophètes l'ont annoncé. Ils ont parlé qu'il va souffrir. Pourquoi je vous dis tout cela ? Pour nous amener à comprendre que les souffrances de Christ et sa mort à la croix n'étaient pas une surprise. Ce n'était pas un jeu du hasard. Il n'était pas parti au casino et puis il a joué bingo et puis il est tombé sur ce point et puis il doit aller à la croix. Ce n'était pas comme ça. C'était prévu, planifié, voulu de Dieu. Annoncé par les prophètes, il est annoncé aussi, comme on l'a dit dans Ésaïe tantôt, je viens de finir de lire ce passage, mais dans Jean, quelque temps, Jean-Baptiste, le cousin de Jésus-Christ, va annoncer. Il va parler et il dit, et parlait ces choses-là, il dit, c'est l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde quand il a vu Jésus-Christ. Dans le Jourdain de Béthanie, Jésus vient à lui à son baptême. Il attire l'attention du peuple. Et il dit, si vous ne savez pas là, voici l'agneau de Dieu. Celui qui va porter nos fardeaux, celui par qui l'humanité va obtenir la justification de Dieu, celui par qui on va être approuvé et agréé par Dieu, celui par qui tout le monde entier aura de l'espoir, celui par qui tout pécheur sera pardonné, celui par qui le chemin sera tracé pour entrer dans l'éternité avec joie et avec espérance. Si tu l'écoutes, si tu crois en lui, tu rentres dans l'éternité. La tête haute et non la tête basse. C'est ce que Jean-Baptiste était en train de dire. Voici l'agneau de Dieu. Et le peuple d'Israël comprenait cela parce que l'agneau était utilisé pour immoler, pour demander le pardon de leurs péchés devant Dieu. Donc ils comprenaient ce langage. Jean-Baptiste a annoncé. David l'a annoncé, Esaïe l'a annoncé. Est-ce que c'est seulement ceux-là qui l'ont annoncé? Non, les souffrances du Christ ont été annoncées par lui-même. Il les a annoncées, il les a confirmées lui-même. À quel moment il a fait cela? Quand il était parmi le peuple, et dans Matthieu, dans Marc 10, 45, Jésus était avec ses disciples, pendant que ces gens-là parlaient de la grandeur qui va être le plus grand au ciel, et d'autres demandaient à avoir la première place, les fils de Zébédée et d'autres, Jésus va se tourner vers son disciple, et il leur dit, « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. » Déjà, il dévoile la mission pour laquelle il est venu. Il révèle aux disciples, je ne suis pas venu ici pour que vous vous chicanez qui va être à ma droite, qui va être à ma gauche, qui va être mon pote, qui va être mon ami. Ce n'est pas pour ça que je suis venu. Je ne suis pas venu pour vous mettre dans une situation confortable. Ici, bas sur la terre. Je suis venu pour servir. Ma mission, c'est de servir. Il dit, le plus grand parmi vous sera celui qui va servir son frère et sa sœur. Et non ceux qui vont se faire servir. Combien de fois beaucoup de gens viennent dans l'église dans le but de se faire servir et non de servir. Combien de fois? Oh, l'église, ça ne répond pas à mon besoin. Donc je ne vais pas là-bas. L'église ne fait pas ça pour moi, ils ne font pas ça pour moi, c'est le nombrilisme. Mais Jésus dit non. Tu es sauvé pour servir et non pour te faire servir. Si tu as bien compris le message de Dieu, tu n'es pas sauvé pour regarder à ton nombril. Tu es sauvé pour lâcher tout ça. Et ta vie désormais appartient à Jésus-Christ et mets-le au service, au profit. Parce qu'avant de le connaître pendant plusieurs années, s'il y a quelque chose que je regrette d'avoir passé 22 ans de ma vie dans l'islam. Parce que ces 22 ans-là n'ont jamais été au service de Dieu. J'ai passé 22 ans à servir le diable. 22 ans à adorer le diable. Mais aujourd'hui, j'ai l'occasion de pouvoir le servir avec toute ma vie. Peut-être que tu es plus jeune que moi. Tu as encore plus de chances de le servir plus toute ta vie. Peut-être que tu es plus vieux que moi. Tu as encore de la chance de le servir avec le reste de ta vie qui te reste. Vous savez, sur la croix, le brigand qui était là, il lui restait quelques secondes. Parmi les deux brigands. Mais c'est quelques secondes qui lui restaient. Il s'est servi de ça pour faire quoi? Pour rentrer dans le royaume du ciel. Pour rentrer dans le royaume des cieux. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il n'a pas fait comme l'autre. Il aurait pu chioler comme l'autre, son voisin. Il aurait pu prendre ça pour essayer de dire autre chose. Mais il a utilisé ça efficacement ce temps qui lui restait. Bon, on va se tasser de là, il ne faut pas débarquer. Alors donc, frères et sœurs, nous sommes à l'Assemblée chrétienne pour servir. Nous sommes le corps de Christ et les souffrances de Christ qui sont annoncées, il le dit, je suis venu non pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour plusieurs. Nous sommes à l'assemblée pour servir et donner notre vie pour le Seigneur. Comme lui, il a donné sa vie pour nous, nous nous vivons pour donner notre vie pour lui. Amen. Et le même Jésus annonce toujours ses souffrances. Il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Il a annoncé ses propres souffrances. Donc ce n'est pas un hasard quand il s'est trouvé sur la face de la terre. Il a annoncé ça, il a dit que le Fils de l'homme sera élevé, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert. Si nous nous souvenons, dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé dans l'Exode? Les enfants d'Israël se sont fait piquer par des serpents venimeux et ils mouraient. Et Dieu a dit à Moïse, fais un serpent d'airain et accroche-le sur une perche et accroche au lever du soleil. Et quand les enfants d'Israël vont regarder le serpent, ils vont lever la tête pour regarder le serpent, alors tous ceux qui regarderont seront guéris de la morsure du serpent. Savez-vous que des gens n'ont pas regardé? Il y a des gens qui ont été orgueilleux, assez orgueilleux pour ne pas lever la tête pour regarder un serpent d'airain, pour obtenir la guérison. Savez-vous que quand nous parlons de ce serpent d'airain, c'était un type de Jésus-Christ. C'était un type de Jésus-Christ qui était annoncé. C'est pourquoi Jésus lui-même prend cet exemple-là. Il le dit comme Moïse a fait ça. C'est comme ça. Ça a annoncé moi. Je vais être élevé. Comme ça. Mais quiconque placera sa confiance à ce serpent élevé, à ce Jésus-Christ crucifié à la croix, qui placera sa confiance en lui et qui le recevra comme Seigneur et Sauveur, sera guéri de toute sa maladie du péché. On va changer de bord, on va aller de l'autre bord. Jésus a annoncé, nous venons de voir qu'il a été annoncé par les prophètes, annoncé par lui-même. Mais non seulement il a été annoncé par lui-même, nous voyons aussi que les souffrances de Christ ont été annoncées par lui-même encore. Je continue, c'est vrai, j'ai un verset qui restait, excusez. Et dans Matthieu 16, il nous dit, alors il recommanda à ses disciples, et il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Et dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem et qu'il souffre beaucoup de la part des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes et qu'il soit mis à mort. Et il ressuscitera le troisième jour. L'as-tu annoncé? C'est ce que Jésus disait à ses disciples. Le contexte de ça, c'est quoi? C'est que les disciples étaient là, ensemble, ils parlaient, et puis Jésus leur pose une question. Que disent les gens de moi? Et ils demandaient. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Les gens disent, ah, d'autres disent tu es le prophète, d'autres disent tu es Élie, d'autres disent tu es si. Et il dit, mais maintenant, vous les disciples, que dites-vous de moi? Je suis quoi pour vous? Les disciples disent, ils disent, mais Pierre dit, mais tu es le Fils de Dieu. Le Christ, le Fils de Dieu. C'est comme si Jésus lui disait, chut, dis pas ça à personne. Il ne faudrait plus que les gens sachent ça. Et il dit, Pierre, Simon Pierre, je suis certain, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père dans le ciel qui t'a révélé. Mais il dit à ses disciples, ne dites plus cela à personne. Parce qu'il voulait qu'il arrive à atteindre sa mission. Imaginez-vous si tout le monde entier, en Israël au temps de Jésus, les gens savaient que Jésus était le Christ, tout le monde le savait. Penserez-vous qu'ils allaient le crucifier? Non, ils ne le crucifieront pas. Alors, pour ne pas faire enfreint à sa mission, il dit, ne dites rien à personne. Ça reste comme ça. Et il va, il annonce sa parole. Donc, Jésus-Christ a annoncé sa propre souffrance. Dans Luc 18, verset 31, Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, voici, nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été dit et écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Là, il marche vers Jérusalem. Il ne recule pas. La crucifixion, les souffrances, les douleurs de Jésus-Christ à la croix ou depuis le début jusqu'à la croix n'étaient pas un hasard. Je le répète, ce n'était pas un hasard. C'était planifié par Dieu. C'était voulu de Dieu. Et la Trinité a planifié ça. Le Fils, il vient, il va mourir. Le Père dit, tu vas aller mourir. Et l'Esprit Saint sera en action. Tu ne resteras pas dans la tombe. Tu vas sortir. La résurrection va avoir lieu. Mais ce n'est pas moi qui vais parler de ça. C'est Benoît qui va nous enseigner dimanche prochain sur ça. Donc, on voit que dans la souffrance, du début jusqu'à la fin, la Trinité est en action. La Trinité travaille ensemble. Ils ne se contredisent pas. Ils font tout. Le Fils va aller à la mission, mais il va accomplir sa mission, mais il ne restera pas dans le tombeau. Ça, c'est impossible. Bon, j'avais mis trop de versets. Je pense que je vais avancer parce que mon temps va trop vite. Ah. Proclamé par les disciples. Proclamé et prêché par les disciples. Les souffrances de Jésus non seulement ont été annoncées par les prophètes, annoncées par Jésus lui-même, mais aussi annoncées et proclamées par les disciples. Ça a été prêché par eux. Et c'est Paul qui dit dans Romains 6, il dit, car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué, et quoi? Il est mort pour les impies. Christ au temps marqué, qu'est-ce que cela nous dit? Que ça avait été prévu. Quand je prévois quelque chose dans mon agenda, quand le moment arrive au temps marqué, je me déplace pour aller. Donc dans l'agenda de Dieu, c'était planifié, c'était marqué. Au temps marqué, Paul le dit. Christ a été crucifié. Il est mort pour qui? Pour les justes? Non, pour des impies. Hébreux aussi nous dit, l'auteur aux Hébreux, il dit, nous n'avons pas un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Le corps des animaux dont le sang était porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour les péchés sont brûlés hors du camp. Verset 12, il dit, c'est pour cela que Jésus-Christ, où Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple, par son propre sang, a souffert hors de la porte. Paul le dit, il a prêché. Paul a cru en Jésus-Christ et il a prêché les souffrances de Christ. Il a dit, c'est pas Paul qui a écrit ça, s'il vous plaît. L'auteur aux Hébreux le dit aussi, que Christ a souffert à la croix, hors du camp. Et il invite le peuple à aller à la rencontre de ce crucifié-là. C'est important. Philippiens aussi nous l'annonce. Paul nous dit dans Philippiens chapitre 2, versets 8, 5 et 8. Il nous dit, ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé son comme une proie à arracher sont d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Moi, ce qui me touche, c'est jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Vous savez, quand on dit jusqu'à la mort, quand on a juste jusqu'à là, ça veut dire quelque chose, hein? Il n'est pas seulement mort, il n'a pas été obéissant jusqu'à la mort. Il dit deux fois, jusqu'à la mort de la croix, même de la mort de la croix. La croix est un instrument mal vu au temps de Jésus-Christ. La croix était quelque chose de périlleux. La croix était quelque chose de honteux. On ne tuait pas un noble sur une croix. C'était l'instrument pour tuer les méchants et les voleurs et les personnes dangereuses. Mais un noble, un roi, une personne de bonne société n'était pas crucifié Et les Juifs même ne connaissaient pas la crucifixion parce qu'ils connaissaient la lapidation. Peu importe ce que tu es, que tu sois noble ou pas, si tu commettais un péché qui méritait la mort, les Juifs, on te mettait puis on te lapidait à mort. Mais c'est les Romains qui ont apporté la crucifixion. Et on dit, il est mort, même de la mort de la croix, la mort la plus honteuse, la mort la plus lente, la mort la plus difficile, la mort la plus compliquée. Il a connu ça. Pourquoi? Pourquoi? Et Pierre nous dit, Christ aussi a souffert pour les péchés, une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Tous ces disciples-là, le cœur de leur message était basé sur la croix, la souffrance de Christ et sa mort et sa résurrection. Si tu prêches le message de Christ, si vous prêchez l'évangile, si je prêche l'évangile, si on n'entend pas les souffrances de Christ, si on n'entend pas la mort de Christ, si on n'entend pas la résurrection de Christ, tu as prêché toute autre chose sauf l'évangile. Prêcher l'évangile, c'est parler de ça. Si je parle des programmes de mon église, ça ne sauve personne. Ça peut être bon, ça peut être bien, mais ça ne sauve personne. Mais si je parle de Jésus-Christ crucifié, mort et ressuscité, ça, ça change des vies. Amen. Pourquoi Christ est mort? Les causes ou les raisons fondamentales de la souffrance de Christ. Si on vous demandait ce matin, quelles étaient les raisons fondamentales de la crucifixion de Christ? Qu'est-ce que vous direz? Moi, je vous écoute là. Un volontaire qui se jette dans l'eau. Qu'est-ce que vous direz? C'est, même si ce n'est pas la vérité, je ne te dirai pas, ce n'est pas vrai là. Tu peux te lancer dans l'eau. Son amour pour nous. Parce que dans le cours d'andragogie que j'ai appris, on me dit, tu ne dis pas à un adulte, ce n'est pas vrai. Tu donnes la vraie réponse, lui-même il saura plus tard que ce n'est pas vrai. Donc, on ne dit pas à un adulte, ce n'est pas vrai. Ok? Son amour, oui, quoi d'autre qu'on pourra dire? Pour payer nos péchés, etc., etc. Alors, Christ est mort, il a souffert à la croix, on peut le voir ici, qu'on nous dit. Les raisons pour lesquelles Christ devrait souffrir. Quand nous regardons Romains 3, 25, il nous dit, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impuni le péché commis auparavant au temps de sa patience à fin. Amen. Dieu avait prévu cela. La raison des souffrances de Christ, il vient pour mourir à cause de la justice de Dieu. La justice de Dieu. Savez-vous, Dieu avait un dilemme. Excusez-moi si j'emploie ce mot-là comme ça. Je ne sais pas s'il y a un autre mot pour le dire. Dieu avait un dilemme. Un dilemme avec ses propres attributs à lui-même. Dieu est amour. Mais en même temps, Dieu est juste. Dans le passé, il a pardonné les péchés de l'Ancien Testament et de tous ceux qui faisaient des sacrifices. Il les pardonnait et on nous dit que le sang couvrait leurs péchés. L'amour était satisfait, mais la justice n'était pas satisfaite. Alors, il fallait répondre à cela. Comment Dieu peut-il pardonner le pécheur tout en étant juste? C'est ça la vraie question. Dieu, comment tu peux pardonner un pécheur et être juste? Parce que tu es Dieu, tu dis tu es juste. Moi, je veux voir la justice. Et moi, j'aime les choses qui sont justes. Alors, des fois, il arrive que je regarde la télévision. Quand je vois quelque chose, une émission qui n'est pas juste, je parle seul. Je me bats avec. C'est pas correct. Puis je me dis, tais-toi, on t'attend en bas. Et c'est vrai, l'injustice, je ne suis pas capable de supporter, que ce soit envers moi-même ou envers les autres, je ne suis pas capable. Mais Dieu va répondre à cette question-là. comment être juste tout en pardonnant le pécheur. Ton amour aime, mais ta justice est lésée. Alors Dieu, si tu veux être juste, Dieu, si tu es vraiment Dieu, Dieu, si tu es droit comme tu le dis, Dieu, si ton caractère est vraiment justice, droiture, alors montre-le-nous. Et Paul dit, parce qu'il avait laissé les péchés impunis auparavant, alors c'était prévu par Dieu que Christ doit venir mourir pour pouvoir satisfaire sa justice. C'est pourquoi Christ est venu. Vous allez être déçus que je dise cela. Mais c'est vrai, c'est pour ça que Christ est venu. Christ n'est pas venu pour autre raison. Il est venu pour satisfaire la justice de Dieu. Tout en satisfaisant la justice et l'amour de Dieu, il était en train de démontrer en même temps son amour vers nous. Donc son action a double sens, double effet. Un coup, deux actions. Un pour deux. C'est ce qu'il a fait. Il meurt à la croix pour nous, pour satisfaire la justice de Dieu. Parce que la justice de Dieu dit que le péché qui est commis doit être condamné et puni. Alors, cette punition, c'est ce qui tombe sur Christ. Romains 3, 26 nous dit, il a démontré, et de démontrer, c'est la suite du verset 25, et de démontrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi. En qui ? En Jésus-Christ. Il a posé cette action-là. Les souffrances de Christ, quand vous regardez la passion, le film La Passion de Christ, là, tout ce que vous voyez dedans, quand on donne des coups au monsieur, là, des fois, là, tu es dans le fauteuil, tu fais, parce que tu as l'impression que tu reçois. Ça fait tellement doux, c'est tellement douloureux, ça fait mal. Mais il a subi tout ça pour que Dieu soit satisfait. Et que maintenant, désormais, que quand Dieu me regarde, il te regarde, il nous regarde, avec le sang de Jésus-Christ sur nous, alors nous sommes favorables. Notre culte est favorable. Notre adoration est favorable. Notre offrande est favorable. Nos dons sont favorables. Nos chants sont favorables. Nos louanges deviennent favorables. Nos acclamations sont favorables. Nos adorations sont favorables. Pourquoi? Parce que Christ a payé. Amen. C'est ça. C'est la raison pour laquelle il est allé à la croix. Pourquoi le Christ devait-il souffrir? Ésaïe 53 nous dit cela. Sept fois, ça revient qu'il a porté nos péchés. Sept fois. On va regarder les sept fois. Il a été blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. L'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous, frappé pour le péché de mon peuple. Il a livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il s'est chargé de leur iniquité et il a porté le péché, les péchés de beaucoup d'hommes. Quand vous lisez Ésaïe 56 et 53, ça vient sept fois. J'ai pris le temps de compter. Sept fois, il est question, c'est à cause de notre péché. Notre péché, notre péché, notre péché. Moi, je vous demande, là, si quelqu'un te parle la même chose sept fois, là, tu vas finir par dire qu'il est fou, hein. Il n'est pas fou. Parce qu'il veut mettre l'accent dessus que c'est important. Dieu met l'accent dessus dans Ésaïe. Sept fois que nos péchés ont été le prix de la souffrance de Christ à la croix. Imaginez-vous que chaque fois que tu péchais ou que je péchais, je donne un exemple. On prend ton papa ou ta maman, on le frappe. Pour chaque péché que tu commets, pour chaque infraction que tu fais dans la route, dans la circulation, la police ne te donne pas. Il dit, amène ta maman, on va la fouetter. On dit, non, moi-même, il faut. Dit, non, non, toi, non, tu n'es pas capable, tu n'es pas parfait. On veut ta maman ou ton papa. Je pense que si on comprend, on va changer notre façon de vivre. Amen. On va changer parce que c'est quelqu'un qui a porté tous ces coups-là à notre place. Jésus-Christ est mort à la croix, en réalité, pour satisfaire l'amour de Dieu et sa justice. Je l'ai dit, je le répète, pour satisfaire l'amour de Dieu et sa justice. C'est comme ça qu'il a démontré, Paul nous a dit. C'est en agissant ainsi qu'il a démontré au temps passé, au temps présent et le temps futur qu'il nous aime et il a payé toute la dette. De quoi maintenant le Christ a souffert? On peut se poser la question, oui, il a souffert, c'est vrai. Oui, il y a eu ça, oui. Mais il a souffert de quoi, premièrement? Si nous regardons la vie de Jésus depuis sa naissance jusqu'à ce qu'il soit adulte, savez-vous de quoi il a souffert? D'abord, il a souffert le fait même de venir comme humain, comme nous, là, c'est déjà une souffrance. Habiter dans un corps comme pour moi, là, un grand Dieu puissant, là, va se réduire pour entrer dans un corps comme pour nous, là. Je vous dis que c'est de la job. Mais il a fait ça pour nous. Naître, grandir. Il a connu le deuil. Il a perdu son père adoptif Joseph, très jeune. Il a perdu son ami Lazare. Tu veux savoir s'il a connu, lui, il a perdu des personnes? Oui, il a perdu des gens aussi, comme toi dans la salle. Comme chacun de nous, nous avons perdu des personnes chères. Jésus aussi a perdu des personnes qui lui étaient chères. Il a connu la souffrance. Il a connu la faim, il a connu la soif. Mais non seulement ça, il a connu le rejet. Aujourd'hui, dans notre société, tu veux faire mal à un jeune, tu sais ce que tu fais? Tu le flushes de ton Facebook. Tu vas voir tout de suite. Le téléphone sonne. Mais ouais, mais pourquoi tu m'as flushé? Qu'est-ce que je t'ai fait? Mais tu m'as rien fait, je t'aime plus ta tête. Est-ce que j'ai le droit? Ça, les jeunes n'aiment pas ça. Mais Jésus a connu le rejet. Il a été rejeté par sa société, par ses amis, par ses connaissances. Il a connu ça. Il a été méprisé. Quand il prêchait, les gens lui disaient, mais c'est qui ça? Pas le fils du charpentier, là. Et le fils du charpentier, ses frères et ses soeurs sont chez nous ici. On le connaît. Ah. Il a connu le mépris. Jésus a été méprisé. Et ils l'ont attaché ses yeux. Pendant la crucifixion, ils l'ont donné des coups, les gendarmes et les policiers, si on peut dire comme ça, les agents de cette époque-là. On lui dit, ben, si tu es prophète, dis-nous qui t'a frappé ou qui va te frapper. Ils sont moqués de lui. Si tu es fils de Dieu, comme tu le dis, tu es aimé de Dieu, descends de la croix, on va voir. Il a connu ces moqueries et ces mépris-là. Ils l'ont insulté, ils ont craché sur lui. Il a connu la calomnie, ils ont parlé dans son dos. Je vous demande, vous et moi, sérieusement, quand les gens vous calomnient, même s'ils disent quelque chose de vrai sur vous, est-ce que vous aimez? Vous aimeriez que ça soit devant vous? Personne n'aime se faire calomnier. On n'aime pas tellement se faire calomnier, on ne veut pas se faire rejeter. Quand, des fois même, on veut faire des trucs pour plaire aux gens, on veut marcher sur des œufs ou couper la poire en deux à tout le temps. Non. Et Jésus, lui, a fait un choix. Je suis venu pour une mission. S'ils m'aiment, ils m'aimeront tel que je suis. S'ils ne m'aiment pas, ils ne m'aimeront pas. Mais je vais faire la mission pour laquelle je suis venu. C'est ça. La trahison. S'il y a quelque chose qui fait mal, c'est la trahison. Quand un ami te trahit, quand ta femme te trahit, quand ton mari te trahit, quand ton enfant te trahit, quand ton patron te trahit, ça fait mal. Parce que tu comptais sur eux. Tu as fait confiance aveuglément en eux. Ils t'ont trahi. Mais Jésus a été trahi par Judas. Il a été trahi par Pierre. Pierre a dit, je ne te connais pas. Il a renié. C'est non seulement un rejet, mais c'est une trahison parce que Jésus dit, mais il est mon disciple. Mais Jésus l'avait même dit au départ. Il dit, Pierre, toi, là, tu vas me renier. Il a dit, non, 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 ça n'arrivera pas. Mais devant les gens, il l'a fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu pardonne à Pierre. Quand Pierre s'est repenti, Jésus revient et il lui confie une mission. Pierre, m'aimes-tu? Paie mon troupeau. L'amour d'un Dieu puissant qui est au-delà de ses émotions. Amen. Il a été abandonné. Personne ne veut être abandonné. On veut tous être acceptés. On veut vivre ensemble. On ne veut pas être abandonné, mais Jésus a été abandonné. Mais son Père, était, même dans le ciel, son Père l'avait abandonné pour quelque temps sur la croix. Abandonné par les autres, ce n'est pas grave. Mais abandonné par mon papa et ma maman, abandonné par ma femme, abandonné par mes meilleurs amis, ce n'est pas drôle. Mais Jésus a connu ça. Bon, je pense que mon temps est parti. Était-il nécessaire qu'il souffre? Oui, c'était nécessaire parce que l'Écriture le dit. Isaïe dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. C'est ce qui devait arriver. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Est-ce que Dieu avait-il autre moyen pour nous sauver? Non. La réponse est non. Est-ce que Jésus pouvait venir autrement? Non. Jésus, dans le jardin de Gethsémané, a prié. Il a dit, Seigneur, s'il était possible que la coupe me soit éloignée, fais-le. Il était en train de dire, Seigneur, s'il y a d'autres possibilités, s'il y a d'autres moyens, est-ce que... Dieu dit, non, il n'y a pas d'autre moyen. Tu vas aller à la croix. C'est pour ça que tu es venu. Il est allé à la croix. Il a soumis sa volonté à la volonté de Dieu. Il a obéi. Il est allé. En conclusion, si je viens là, quel impact les souffrances de Christ à la croix ont-elles sur notre vie? Et comme chrétiens, comment les souffrances de Christ peuvent-elles nous encourager? Et comme inconvertis, comment les souffrances de Christ peuvent-elles aussi nous encourager? Ce matin, j'aimerais dire, l'impact de Christ dans notre vie, c'est que désormais nous pouvons être enfants de Dieu. Il nous met en relation, il nous a réconciliés avec le Père. On peut entrer dans la présence de Dieu. Le péché est pardonné, quelqu'un a payé la dette pour nous. C'est pour cette raison qu'on est assis ce matin ici. Deuxièmement, comme chrétien, quel est l'impact ou comment les souffrances de Christ peuvent m'encourager? C'est que je vois que Christ, malgré toute la souffrance, il a accepté de faire une chose, il a accepté de porter la volonté de Dieu. Porter la croix pour aller à Golgotha. Obéir à son Père, malgré toute la souffrance qui était au bout. Sommes-nous prêts, nous, ce matin, de porter la volonté de Dieu, quel qu'en soit le prix à payer? Quel qu'en soit le prix à payer comme chrétien? Sommes-nous prêts de porter la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est de savoir ce que Dieu veut clairement, et je dis, je le fais. Il y a des souffrances au bout, mais je vais m'en tenir à le faire. Dans mon couple, ça ne va pas. Ouais, j'ai le choix. Sauter par la fenêtre ou rester dans le couple puis réparer. C'est la volonté de Dieu que je demeure, que je répare. Mais tu as le choix. Mais toi, tu dis non, moi je ne veux pas ça, je vais partir parce que c'est trop douloureux. Je te laisse les conclusions à toi-même. On peut l'étendre sur plusieurs aspects. Dans mon travail, partout où on se trouve, on va avoir des souffrances. Mais si nous sommes dans la volonté de Dieu, il n'y a rien de meilleur que ça. Jésus-Christ a porté la volonté de son Père. Porter la croix, c'était porter la volonté de son Père et aller mourir pour le péché de l'humanité. Il a fait ça. Acceptons-nous de souffrir pour une cause juste. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui meurent, qui se font tuer pour des causes que pour eux, ils pensent que juste, mais qui n'est pas juste. On a parlé des kamikazes ce matin, on a parlé de beaucoup d'autres choses. Mais nous, Dieu nous demande de porter sa volonté. Peut-être ce matin, tu ne connais pas le Seigneur. S'il y a une chose que je peux te dire, l'Écriture nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il vienne à la vie. Tu peux être sauvé ce matin. Tu peux donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. S'il a souffert à la croix, c'est pour toi et pour moi. Moi, j'ai compris ça il y a 27 ans, j'ai donné ma vie à Dieu. Mais ce matin, tu peux aussi être enfant de Dieu. Le recevoir dans ta vie et vivre pour lui. Ne sors pas ici sans avoir fait la paix avec Dieu. Parce que c'est pour toi que Christ a fait tout ça aussi. Alors que Dieu nous bénisse. Et il nous dit à la fin, Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour tout ce que tu as souffert à cause du péché, à cause de mon péché, à cause de mes manquements, à cause de tout ce que j'ai pu dire ou faire qui n'a pas été à ta gloire. Ce matin, purifie-nous, lave-nous. Pardonne-nous. Merci pour l'œuvre à la croix et accompagne chacun de nous dans ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.